Il approche, affairé, flairant de ci de là. Sa mince tête, pâle comme le chlore, danse au milieu du bourrelet de son col de capote beaucoup trop épais et large. Il a le menton taillé en pointe, les dents de dessus proéminentes, une ride au-dessus de la bouche profondément encrassée à l'air d'une muselière. Il est, selon son ordinaire, furieux et, comme toujours, il rousse.
« On m'a fauché ma musette cette nuit !»« Bah, c'est la relève du 129, où est-ce que tu l'avais mise ?»
Il désigne une baïonnette fichée dans la paroi près d'une entrée de cagna. « Là, pendue à ce cure-dent qui est planté ici-là !»
« Ballot !» s'écrie le cœur. « À la portée de la main des soldats qui passent, t'es pas dingue, non ?»« Bah, c'est malheureux tout de même !» gémit Tirloir.
Puis, tout à coup, il est pris d'une crise de rage. Sa face se chiffonne, furibonde, ses petits poings se serrent comme des nœuds de ficelle. Il les brandit.
« Alors quoi ? Ah, si je tenais la carne qui me l'a faite, tu parles que j'y casserai la gueule et que j'y défoncerai le bide, que j'y... Il y avait dedans un camembert pas entamé. Je vais encore chercher. »
Il se frictionne le ventre du poing à petits coups secs, comme un guitariste, et il s'enfonce dans le gris du matin, à la fois digne et grimaçant, avec sa silhouette engoncée de malade en robe de chambre. On l'entend tout sauter jusqu'à disparition.
« Ce con-là !» dit Pépin.
Les autres ricanent. « Il est fou et loufoque !» déclare Marthereau, qui a coutume de renforcer l'expression de sa pensée par l'emploi simultané de deux synonymes.
« Tiens, petit père !» dit Tulac. « Qui arrive ? Vise-moi ça !»
Tulac est magnifique. Il porte une casaque jaune citron faite au moyen d'un sac de couchage en toile huilée. Il a pratiqué un trou au milieu pour passer la tête et a assujetti, par-dessus cette carapace, ses bretelles de suspension et son ceinturon. Il est grand, osseux. Il tend en avant lorsqu'il marche une énergique figure aux yeux louches. Il tient quelque chose à la main.
J'ai trouvé ça en creusant la terre cette nuit, au bout du boyau neuf, quand on a changé les caillebotis pourris. Ça m'a plu tout de suite, cet affutio. C'est une hache, ancien modèle.
Pour un ancien modèle, c'en est un. Une pierre pointue emmanchée dans un os bruni. Ça m'a tout l'air d'un outil préhistorique.
C'est bien en main, dit Tulac en maniant l'objet. Mais oui, c'est pas si mal compris que ça. Plus équilibré que la hachette réglementaire, c'était pas tant pour tout dire. Tiens, essaye voir. Hein ? Rends-la-moi, je la garde. Ça me servira bien, tu verras.
Il brandit sa hache d'homme quaternaire et semble lui-même un pithécanthrope affublé d'oripeaux, embusqué dans les entrailles de la terre. On sait, un à un, groupés, ceux de l'escouade de Bertrand et de la demi-section à un coude de la tranchée. En ce point, elle est un peu plus large que dans sa partie droite, où, lorsqu'on se croise, il faut pour passer se jeter contre la paroi et frotter son dos à la terre et son ventre au ventre du camarade. Notre compagnie occupe, en réserve, une parallèle de deuxième ligne. Ici, pas de service de veilleur. La nuit, nous sommes bons pour les travaux de terrassement à l'avant, mais tant que le jour durera, nous n'aurons rien à faire. Entassés les uns contre les autres et enchaînés coude à coude, il ne nous reste plus qu'à atteindre le soir comme nous pourrons. La lumière du jour a fini par s'infiltrer dans les crevasses sans fin qui sillonnent cette région de la terre. Elle affleure au seuil de nos trous. Lumière triste du nord, ciel étroit et vaseux lui aussi, chargé, dirait-on, d'une fumée et d'une odeur d'usine. Dans cet éclairement blême, les mises hétéroclites des habitants des bas-fonds apparaissent accrues dans la pauvreté immense et désespérée qui les créa. Mais c'est comme le tic-tac monotone des coups de fusil et le ronron des coups de canon. Il y a trop longtemps que dure le grand drame que nous jouons, et on ne s'étonne plus de la tête qu'on y a prise et de l'accoutrement qu'on s'y est inventé, pour se défendre contre la pluie qui vient d'en haut, contre la boue qui vient d'en bas, contre le froid, cette espèce d'infini qui est partout. Peau de bête. Peau de bête, paquet de couvertures, toile, passe-montagne, bonnet de laine, de fourrure, cache-nez enflé ou remonté en turban, capitonnage de tricot et surtricot, revêtement et toiture de capuchon goudronné, gommé, caoutchouté, noir ou de toutes les couleurs, passée de l'arc-en-ciel, recouvre les hommes, efface leurs uniformes presque autant que leur peau, et les immensifie.